Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans l'agenda du mois de juillet, l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, le festival de La Rochelle, la rétrospective en salle de 5 films de Dario Argento, la rétrospective Robert Bresson et Sergio Corbucci à la Cinémathèque française, sans oublier les nombreuses séances estivales de cinéma en plein air, tout cela évoqué avec la fine équipe de Revue et Corrigée, Alexis Yomet et Marc Moquin. Dans les événements de ce mois de juillet, débutons avec l'exposition Chris Marker qui a lieu à la Cinémathèque française et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet, intitulée « Les sept vies d'un cinéaste ». Elle revient sur un artiste secret, touche-à-tout, photographe, cinéaste, écrivain. Il publie son premier roman, « Le cœur net » en 1949. Il réalisa notamment avec Alain Resnais « Les statues meurent aussi », virulente charge anticoloniale. En le revoyant, c'est même assez frappant. Censuré pendant plus de 11 ans, puis il fonde il dirige la collection La Petite Planète qui renouvelle les guides de voyage. Il réalise ensuite Lettres du Sibérie qui est un peu un modèle de manipulation de montage. Je le recommande aussi chaudement. Et puis en 62, bien sûr, La Jetée, son œuvre la plus célèbre qu'on peut redécouvrir en intégralité. Le premier film composé presque exclusivement de photographies qui inspirera plus tard Terry Gilliam et son Armée des Douze Singes. Marker disait même à l'époque qu'il avait été fortement inspiré par le vertigo d'Hitchcock. Il co-réalise ensuite avec Pierre Lhomme Le Joli Mai, chronique sur le Paris d'après-guerre. Puis il photographie de nombreux événements, de nombreux mouvements et des révolutions à travers le monde. En 74, il réalise un formidable documentaire sur Yves Montand, La solitude du coureur de fond. Et puis en 77, il sort Le fond de l'air est rouge sur les luttes révolutionnaires dans le monde. Enfin, dans les années 80 et 90, c'est des documentaires sur le mur de Berlin et les Balkans, mais aussi des expérimentations visuelles assez intéressantes. Messieurs, est-ce que vous avez pu découvrir cette exposition Chris Marker à la Cinémathèque?
Marc Moquin. Oui, l'exposition qui est assez dense. Si vous allez la voir, d'ailleurs, faut bien vous réserver une après-midi entière, parce que non seulement il y a toujours un peu le côté très fétichiste de toutes les expositions de la Cinémathèque, mais plus encore, il y a tellement de modules vidéo, enfin, ce sont même plus des modules de séances, en fait, cinéma et vidéo, répartis dans toute l'exposition, qu'il faut vraiment, faut envisager 3, 4 heures, 5 peut-être, pour absolument profiter de tout ce que la Cinémathèque a remis en scène autour de Chris Marker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une sorte de compilation, de best-of en fait, de Marker, c'est qu'il y a une vraie mise en scène de l'exposition, et c'est ça qui est très intéressant, avec toutes les figures classiques de Marker, soit d'un côté la figure révolutionnaire, ou soit de l'autre côté la figure peut-être un peu pop, avec le fameux chat de Chris Marker qu'on retrouve. Et en tout cas, c'est clairement quelque chose à ne pas manquer pour cet été. Elle a lieu jusqu'à fin juillet, je crois, donc c'est le bon moment. Et là, il y a un petit peu moins de monde, en plus c'est parfait pour y aller, pour profiter du moment, de bien regarder les séances, de bien regarder tous les textes qui ont été écrits, soit par Marker, soit par les gens qui ont écrit autour de Marker, ses amis. Il a quand même fréquenté et eu de bonnes fréquentations, voilà. Et donc voilà, immanquable de l'été en termes d'exposition cinéma.
De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur,
Autre événement de ce mois de juillet, le Festival international du film de La Rochelle, qui a déjà commencé depuis le 29 juin et qui se poursuit jusqu'au 8 juillet avec de nombreux hommages. Alors le Festival de La Rochelle, c'est sur le cinéma actuel, mais c'est aussi sur le cinéma dit de patrimoine, avec notamment une intégrale Robert Bresson. On pourra retrouver tous ses films, on va reparler de Bresson juste après. On parlera évidemment aussi d'Igmar Bergman, enfin Bergman, on en reparlera beaucoup plus à la rentrée puisqu'il y a tout un événement autour. Mais le Festival de La Rochelle lance les festivités. Aki Kaurismäki également, Nick Park et les studios Hardman, un focus sur la Bulgarie également, et puis des leçons de musique, notamment avec Béatrice Thirier, compositrice de longue date de Noémie Cabrera et Pascal Ferrand, qui sera là, avec un ciné-concert, une nuit avec Christopher Walken, avec la présentation de Voyage au bout de l'enfer de Brainstorm de Douglas Trumbull et du King de New York d'Abel Ferrara, et puis également une carte blanche entre guillemets à Skolimowski, Jerzy Skolimowski, avec la projection du départ qui aura lieu le 4 juillet à 17h, une projection précédée d'un concert de Bertrand Ravalard en hommage à Christophe Komeda avec le thème du départ et d'autres musiques de films. Donc une très belle programmation à découvrir à La Rochelle jusqu'au 8 juillet. Dario Argento, le roi du giallo, est en salle à nouveau depuis le 27 juin. 5 films du maître du magicien de la peur sont en salle, L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à neuf queues, Suspiria, Phenomena et Opéra. Fascinant réalisateur italien qui depuis presque un demi-siècle est devenu le maître incontesté de ce type de thriller à l'esthétique baroque et expressionniste, où la peur évolue souvent vers le fantastique et l'horreur. Il transcende le film de genre avec des références psychanalytique ou érotique. Je n'en suis pas un inconditionnel, mais messieurs, est-ce que Dario Argento, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est à découvrir absolument?
C'est un réalisateur qui a réussi à s'émanciper un petit peu du film de genre qui est souvent très marqué, on va dire, public populaire avec des codes très faciles et très abordables et souvent un peu grand guignol et qui en fait des caisses. Et finalement, certains auteurs se sont émancipés de cette petite case, on va dire, de cinéma bis pour vraiment apporter une vision d'auteur. On pense notamment à Fulci, mais également à Argento. Et Argento, justement, est connu pour justement travailler toute une psychanalytique, une psychologie de ces personnages à travers des obsessions de aussi bien visuelles que cérébrales sur la sexualité, sur les femmes, sur je l'approche un petit peu d'un cinéma qui se rapproche un petit peu d'un cinéma comme l'a pu l'être Clouseau à une autre époque. Et donc lui est devenu justement un maître du cinéma en Italie puis dans le monde, connu justement pour ce cinéma-là très très visuel, très viscéral, qui est complètement expansif visuellement mais complètement fascinant.
Et j'ajoute que dans Revue et Corrigée, on va bientôt en parler, mais il y a un très bon article signé Loris Drew Lombroso sur Dario Argento, très intéressant sur les thématiques, sur son œuvre, et puis suivi d'une interview, c'est quand même assez lié, de Stéphane Boyer, qui est responsable des éditions du Chat qui fume, qui est un éditeur de films bis, on va dire.
Voilà, mais très spécialisé justement dans ce genre-là.
Voilà, mais qui est tout à fait recommandable et qui est devenu d'ailleurs recommandable depuis quelques années. Genre qui a quand même été méprisé pendant bien longtemps, il faut bien le dire, mais qui est devenu tout à fait respecté, respectable maintenant.
Un sacco di strani, incredibili, assurdi avvenimenti. Già da qualche mese. E prima di andare via, dietati a me questi appunti. Ti faccio leggere tutto questa sera. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte. Susy, tu sei niente di streghe. Cosa fanno le streghe?
Il male. Nient'altro al di fuori di quello.
Cercavi Sara? È sparita.
Ha preso armi, bagagli e via.
Ma è impossibile.
Autre Notre rétrospective cette fois consacrée à Robert Bresson. Là, on change radicalement d'univers à la Cinémathèque française du 4 au 29 juillet. Alors là, on est dans l'ascétisme, on est dans le dépouillement le plus total. L'absence de psychologie, c'est ce qui aussi marque les films de Robert Bresson. Quelques-uns, bien sûr, hein, Pickpocket, L'argent mouchette, pour citer les plus célèbres. Le cinématographe, selon Bresson, mettait en valeur ces acteurs qu'il considérait comme des modèles. La plupart étaient non professionnels, qu'on peut retrouver donc dans nombreux films de ce cinéaste qui a quand même énormément inspiré des générations suivantes, notamment à travers des films comme Le journal d'un curé de campagne qui ressort en salle le 4 juillet, ainsi que Les Dames du Bois de Boulogne, que Les Acacias ressortent également le 4 juillet, inclus dans cette rétrospective qui a lieu à la Cinémathèque française jusqu'au 29 juillet. Changement d'univers avec Sergio Corbucci, toujours à la Cinémathèque française du 9 au 29 juillet. Alors, Sergio Corbucci, c'est un réalisateur qui a été beaucoup dans l'ombre de Sergio Leone. C'est un peu un des petits maîtres du cinéma du western italien, qui s'est fait surtout connaître avec Django et Le Grand Silence. On a parlé dans le précédent flashback d'un film quand même très mineur de Corbucci qui valait juste pour la présence de Johnny Hallyday, qui était le spécialiste. Sergio Corbucci, Marc, comment on pourrait le résumer?
Alors, malgré tout, voilà, il y avait les trois grands Sergio du western italien. Il y avait Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima. Et Corbucci, c'est intéressant de se repencher dessus aujourd'hui parce que, alors, il y a le prétexte idéal qui est la ressortie de la version restaurée du spécialiste qui n'est clairement pas son meilleur western. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tous les autres cinéastes du western italien ont été dans de l'émule, dans des westerns italiens sans grandes idées, quand on regarde certaines variations de Django ou de Sartana, etc., où on a eu des tonnes et des tonnes, on se rend compte en fait à quel point le cinéma de Corbucci est richissime en idées. Quand il fait Le Grand Silence, en fait, il invente, enfin c'est pas le seul à l'avoir fait, il y a eu La Chevauchée des Bagnes avant, mais il invente une nouvelle variante du western hivernal. Quand il fait, évidemment quand il fait Django, il crée une nouvelle vision du héros qui n'est pas exactement la même que celle qu'il y a chez Sergio Leone, et évidemment pas forcément la même que celle qu'il y a chez Sam Peckinpah au niveau des Américains. Par exemple, Django, c'est un héros assez... où on est revenu, pour le coup, à un minimalisme de la caractérisation que même Sergio Leone n'aurait jamais fait. C'est un personnage qui est non caractérisé. Django, par exemple, on a juste... C'est un personnage... sa caractérisation se résume à son premier plan. C'est un personnage badass, si on veut, qui tire son cercueil. Voilà. Et ça ne va pas plus loin, en fait. Et il y a, en fait, toute cette inertie, toute cette idée, plutôt, qui traverse, en fait, le cinéma de Corbucci, qui se résume à des idées minimalistes, en fait, face à un Sergio Leone qui va être dans la fresque. Et Corbucci, pareil, Le Grand Silence, western hivernal, Jean-Louis Trintignant face à Klaus Kinski, un enjeu assez minimaliste. On pourrait... C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais facilement, c'est le bon contre le méchant, le bon Trintignant contre le méchant Kinski. Et sans raconter ce qui se passe à la fin, Corbucci fait quelque chose que bien peu de cinéastes de sa génération d'avant ou d'après ont fait. Et voilà. Et à chaque fois, il profite en fait soit de la non-caractérisation de ses personnages pour faire de l'iconisation et donc créer juste des personnages qui vont être remarquables, paradoxalement non caractérisés, comme dans Django, soit il va faire du grand western de paysage, du grand western d'univers, comme dans Le Grand Silence, avec une des plus belles musiques d'Ennio Morricone, ou soit dans Compañeros, qui est un excellent western aussi dont on parle assez peu. Et en fait, voilà, ça recontribue à redévelopper un peu le regard qu'on a sur Corbucci, qu'on a redécouvert timidement quand il y avait eu la sortie de Django Unchained de Tarantino, où on s'était à l'époque repenché sur Django parce qu'il était ressorti en salle à l'époque. Et là, voilà, on commence à se repencher de nouveau sur le reste. Donc, Compañeros, donc Le Grand Silence. Là, voilà, ça, c'est déjà son panthéon. Il y a néanmoins, voilà, le spécialiste, mais vous en avez déjà parlé. Le spécialiste, c'est pas terrible, mais pourtant, il y a un filmage du territoire qu'il n'y a pas dans d'autres westerns, où ça se passe dans des territoires alpins et verts, et il y a peu ça dans d'autres westerns. Donc malgré tout, le film a son originalité. Donc voilà, Corbucci, c'est un vrai cinéaste du western italien à redécouvrir. Pour ma part, j'attends le moment où on fera une rétrospective, si ça n'a pas déjà eu lieu, j'espère, Castellari, qui est le réalisateur de Keoma, notamment. Et voilà, il y a encore beaucoup, j'imagine, de travail à faire autour de certains réalisateurs du western italien. Donc, avec Corbucci, on suit certainement la bonne voie.
Donc, à retrouver à la Cinémathèque française. Et puis, c'est une période estivale, évidemment, et on aime regarder le cinéma en plein air à cette époque-là. À commencer avec la Cinémathèque de Toulouse, qui propose une belle programmation du 6 juillet au 25 août, une sélection de films, pour la plupart des grands classiques de l'histoire du cinéma, que l'on pourra découvrir en plein air. Alors, pêle-mêle, Laura de Preminger, Les Oiseaux d'Hitchcock, Parle avec elle, Almodovar, THX 1138 de Lucas, mais aussi Sur les quais de Kazan, Le voyage fantastique de Richard Fleischer. Enfin, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. 20 milieux sous les mers aussi de Fleischer, au passage. Mais voilà, il y a vraiment une très très belle programmation à découvrir donc à la Cinémathèque de Toulouse. Et puis, le cinéma en plein air à la Villette, c'est aussi du 18 juillet au 19 août à la Prairie du Triangle de la Villette, avec cette année comme thème la chanson. Ça démarre un peu en fanfare avec La La Land de Damien Chazelle en version karaoké. Ça, je suis moins sûr, mais ce sera dès le 18 juillet. On retrouvera La vie aquatique de Wes Anderson. Plus loin de nous, il y aura Yellow Submarine de George Dunning, Jules et Jim de Truffaut, mais Pierrot le Fou notamment, Le Diable est dans les détails, un film de Fabien Gorger, mais qui est un court-métrage, Rivière sans retour de Preminger, et puis Deux temps forts également, On connaît la chanson d'Alain René, et puis enfin, clôture, est-ce qu'on pouvait mieux terminer de manière plus déchirante, avec Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte.
Ce n'est pas possible.
Je ne te quitterai pas.
Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.